Variation en noir. Roman noir sur Radio PFM. Et littérature policière au pluriel. Le noir et le polar s'incrustent dans Variation. Méfie-toi, Bernard, ils vont finir par squatter toute ton émission. En tout cas, merci d'accueillir depuis quelques années Noir c'est Noir, la chronique que je consacre au roman plus ou moins noir, et merci d'avoir accepté de céder une fois par mois, ce sera le dernier vendredi du mois, une fois par mois, donc bien plus que les 3 ou 4 minutes de Noir c'est Noir, puisque aujourd'hui, pour cette première mensuelle, eh bien, tu cèdes la moitié de ton émission. Et ce n'est qu'un début. Je pense qu'on va réussir à en grignoter un peu plus des minutes. Donc, tu cèdes la moitié de ton émission à un rendez-vous consacré au roman noir et au, le pluriel s'impose, aux littératures policières. Donc, le dernier vendredi du mois à 19h30 sur Radio PFM, Noir c'est Noir prend ses aises et devient Variation en noir. Avant toute chose, je salue Hervé Delouche qui est avec nous au téléphone.
Eh bien, bonsoir à vous.
Paris. Hervé, bonjour.
Bonjour.
Alors, je sais que ça ne se fait pas à la radio, mais j'aurais vraiment beaucoup de mal à te vouvoyer. J'espère donc que tu es bien installé derrière ton téléphone, puisque tu seras avec nous tout au long de cette émission, jusque 20h, et même plus, puisque Variation en noir est une collaboration entre PFM et 813. 813, voilà, l'association des amis des littératures policières, 813, Hervé, dont tu es actuellement le président. Alors, après les expériences communes du Salon du Livre à Arras, où donc PFM et 813, ces deux dernières années, ont co-animé des émissions sur le studio mobile de la radio en direct, il nous a semblé pertinent de poursuivre cette collaboration radio. Donc, Hervé, grand merci d'avoir accepté ce rendez-vous mensuel. Alors, je voudrais dire aux auditrices et aux auditeurs que tu n'as pas été difficile à convaincre. Pour la petite histoire, tu m'as dit OK avant même que je précise le projet.
Alors, voilà, ça les amènera, je pense, à comprendre pourquoi il existe une confiance qui fait que nous allons nous tutoyer à l'antenne, je
voilà.
pense.
Alors, l'idée de Variation en noir, c'est de parler de cette littérature, de ces littératures qui nous intéressent, que 813 défend ardemment. Variation en noir, ce sera donc un moment d'échange autour de l'actualité des littératures policières, du polar, du noir, en particulier au travers de l'actualité de 813. Ce sera aussi l'occasion d'évoquer nos coups de cœur respectifs, les Delouche du mois, je dirais, le ou les Delouche du mois et le Noir c'est Noir du mois. Alors aujourd'hui, l'actualité 813, c'est la dernière revue qui est sortie tout récemment. Nous allons la parcourir ensemble, Hervé. Nous dirons aussi quelques mots d'Elmore Léonard, disparu il y a peu. Pour les coups de cœur, pour les tiens, ben c'est la surprise, on les attend avec impatience, et nous terminerons par François Guérif pour le Noir c'est Noir du mois. C'est parti, Hervé. Alors, avant tout, première oblige, un mot quand même rapide de présentation de 813, Hervé.
Bah, pour faire très vite, 813, c'est une association qui s'est créée il y a 33 ans maintenant, à une époque où le polar, les littératures policières, le roman noir n'avaient pas vraiment la faveur ni des médias, ni de l'université, ni enfin voilà, c'était un peu un mauvais genre comme l'on dit. Et voilà, et c'est une poignée de gens qui, lors d'un premier festival qui à l'époque avait lieu à Reims, qui était le premier festival polar qu'il y a eu en France, ont décidé de créer une association pour parce qu'ils étaient passionnés et puis voilà, et puis du temps a passé et aujourd'hui bon évidemment on lit partout que le polar est sans doute la première lecture du public hexagonal, mais avec à l'intérieur des choses diverses bien évidemment, mais en tout cas les temps ont changé, le mépris n'existe plus beaucoup vis-à-vis du genre en question, mais il y a toujours du travail à faire. Enfin, quand je dis que le mépris n'existe plus du tout, il y a quand même une émission littéraire très connue et par ailleurs qui ne manque pas de pertinence, mais qui est sur une radio publique et qui a lieu le dimanche soir, je crois, à 20h, et qui a pour point d'honneur de ne jamais parler de polar, comme si ça n'existait pas.
Eh bien, on va compenser. Un petit mot rapide, Hervé. Tu dis donc 33 ans, là, tu parles du premier festival de Reims, et j'anticipe un petit peu sur François Guérif. Et tout ça s'est mis en place un petit peu autour de la librairie, de sa librairie, le Troisième Œil, il me semble, non ?
Oui, c'est ça. C'est-à-dire que c'est très bien qu'on ait tout à l'heure, à la fin, justement, François Guérif, parce que justement, on peut également l'avoir au début, parce que François fait partie de ces gens qui ont été des acteurs chevronnés, inlassables, de la reconnaissance d'un genre et de faire connaître les bons auteurs de ce genre, puisque, voilà, il n'y a pas de mauvais genre, il n'y a que parfois des mauvais livres, c'est tout.
Voilà. Alors...
Mais voilà, et tout à fait, et c'est autour de la librairie au Troisième Œil, qui était, je crois, la première librairie polar à Paris.
Oui, spécialisée.
Voilà que tout ça s'est créé avec d'autres alliés, comme Michel Lebrun, par exemple, et quelques autres. Et puis tout ça a grossi, puisque de ce petit groupe qui a créé 813, qui avec cette appellation faisait un peu société secrète, disons, aujourd'hui, il y a... 750 à 800 adhérents en France qui sont...
Le plafond, c'est 813, hein, il me semble.
Voilà. Ouais.
Non, c'est même
voilà,
pas...
Voilà, et qui sont des... qui ont pour... la seule condition est d'être passionné de polar, même si, évidemment, on compte des auteurs, des traducteurs, des animateurs d'émissions de radio... des libraires, et puis voilà, beaucoup de bibliothèques et médiathèques...
Alors,
voilà
donc,
pour faire un peu rapidement le tour, et 813 est actif dans des rencontres justement
des festivals,
le plus possible à travers l'Hexagone, dans des lieux qui peuvent être bibliothèques, librairies, salons, festivals, voilà.
Alors donc 33 ans plus tard, 813 c'est bien développé, et 813 c'est aussi une revue, la revue, et donc c'est sorti cet été le numéro 116.
C'est ça.
Voilà. Alors quelques informations pratiques pour débuter, le rythme de parution, et on se procure facilement cette revue ?
Alors, le rythme de parution, c'est actuellement 3 numéros par an. On aimerait bien arriver à 4, mais enfin, comme tout ce qui est fait à 813, c'est une activité bénévole, même si on essaie de faire une revue la plus professionnelle possible. Voilà, c'est-à-dire avec son contenu et avec une certaine esthétique quand même. La réponse à l'autre question, 813 n'est pas est surtout vendu par adhésion à l'association, par abonnement, mais effectivement on ne la trouve pas partout parce que ça n'est pas diffusé par les NMPP et il y a quelques libraires qui la vendent, mais enfin ce n'est pas la façon la plus simple de la trouver, mais on peut évidemment...
Le plus simple, c'est adhérer, voilà.
Il y a,
35 euros pour un an.
Il y a actuellement un blog 813, il suffit de taper blog 813 sur le net, où il y a à peu près tous les jours des infos nouvelles et où il y a tous les renseignements pour contacter 813, quoi.
Alors pour les auditrices, les auditeurs, on indiquera sur le site de la radio l'adresse de 813 pour celles et ceux qui voudraient rejoindre cette belle association. Alors le numéro 116, toujours un focus pour la revue 813, cette fois c'est Tim Willocks.
Voilà, le Dans la livraison précédente, on avait fait un très gros focus sur Jim Thompson, à l'occasion de, justement,
encore on François y revient, Guéry, voilà.
Et du fait que les éditions Rivage
qu'il dirige,
ouais. Sur le versant polar Guérif, avait entrepris la retraduction des romans de Jim Thompson, qui étaient ceux qui étaient de la série noire. Et à partir de là, c'était une occasion pour saluer ce que un certain nombre d'entre nous considèrent comme un des vraiment dans le top du roman noir parmi les plus grands et les voilà. Et puis là, on est revenu à une formule avec justement différents focus, mais un focus principal sur cet écrivain enfin, d'une très grande puissance, qui, comme le dit Gérard Leca, qui est un écrivain lui aussi, qui a fait l'article sur Willox et qui a fait un entretien avec lui.
Oui, il y a une interview.
Il dit que Tim Willox peint avec les mots et aussi avec un sens de l'image, un sens cinématographique qu'on découvre si on lit, par exemple, son dernier énorme roman, La Religion, mais aussi avec, moi, il y a un livre que j'aime énormément de lui qui s'appelle... Green River, qui
oui,
est
je
crois, un des livres les plus puissants qui ait été fait sur l'univers pénitentiaire.
Oui, tout à fait.
Et qui se termine par une sauvage répression de Tollard qui est totalement époustouflante et très cinématographique. Mais on pourrait dire la même chose pour le braquage et sa fin sanglante dans Bad City Blues. Enfin, voilà, c'est un auteur assez hors norme et... voilà, et puis, eh bien, comme tu l'as vu, il y a quelques autres auteurs
oui, bien sûr, hein.
Évoqués dans cette livraison.
Bon, du classique, hein, Fred Vargas, des auteurs là, qui montrent le bout du nez de manière très intéressante. Je pense à Sam Millar.
Sam Millar, c'est effectivement un auteur qui... C'est un troisième roman qui est paru en France cette année, qui s'appelle On the Brinks. Sam Millar, c'est quand même... c'est une personne, qui a une sacrée histoire. Ça a été un combattant de l'armée républicaine irlandaise dans les années les plus dures. C'est quelqu'un qui a fait un grand nombre d'années à la prison tristement célèbre de Long Cache, où est mort Bobby Sands. Et par ailleurs, il le raconte dans ce dernier roman, où il y a toute une partie qui est sur son emprisonnement.
Oui, c'est autobiographique, c'est un roman vraiment autobiographique. Là.
Oui, tout à fait, et où on bascule dans la deuxième partie sur un versant qui est là plus humoristique, plus à la Donald Westlake, parce qu'il a également, il est parti après aux États-Unis, où il a été l'auteur d'un braquage qui figure dans les annales du cambriolage américain. Voilà, contre la Brinks. Justement.
Alors, et Hervé, décidément, François Guérif, c'est notre fil rouge aujourd'hui, puisque dans l'édito que tu signes, hein, en tant que président de 813, ben, tu fais référence à un livre qui était publié à l'initiative de François Guérif dans la collection Red Label, Méchant Garçon. Voilà.
Ouais, Méchant Garçon de Jack Vance, c'est un livre quand je l'ai découvert il y a très très longtemps. C'était justement à la fin des années 70, je crois, dans la collection Red Label. Et voilà, à l'époque, je ne connaissais pas François Guérif, mais je lisais des polars. Et c'était et dans cette première collection qu'il a animée, Guérif mettait des auteurs pas anglo-saxons, Frédéric Brown, Robert Bloch et David Goodis. Et puis il y avait ce bouquin de Jack Vance, Méchant Garçon,
assez qui est un roman étonnant.
D'une certaine férocité, cruauté, d'une acuité très forte. Enfin, c'est une sorte de ça. Ça fait partie de ces petites perles noires d'une espèce. Et Méchant Garçon, c'est un jeune un jeune gars qui est totalement couvé par sa mère dans une espèce de maison un peu quartier résidentiel américain, et puis elle va décéder, et lui il faut dire quand même qu'il est légèrement disjoncté, il a commis un meurtre contre une adolescente qui se refusait à lui, disons, et sa mère l'a d'abord planqué, puis sa mère meurt, et lui va... elle va lui avoir ménagé une cachette dans la maison, et où il va devenir une espèce de voyeur, et pas que ça, d'une famille, une mère et trois filles, je crois, qui s'y installent.
Oui.
Et voilà.
Alors, tu en parles. Est-ce que il vient d'être réédité, ce livre, ou il faut aller chercher dans les bacs d'occasion?
Eh ben, malheureusement, c'était aussi un peu le but de mon... Bon, le but, c'était aussi... Bah, il y a toujours des bah, malheureusement, ces tristes occasions pour parler des auteurs, c'est quand ils sont décédés. Jack Vance venait de mourir quand j'ai décidé d'écrire ça. Et il se trouve que dans la presse, on a un peu salué Jack Vance parce que c'était un maître de l'heroic fantasy. Mais on a très peu parlé de son versant polar, alors qu'il en a écrit quelques-uns. Et je me suis dit, c'est une manière de reparler de Méchant Garçon, qui est un livre que j'aime énormément. Et par ailleurs, c'est aussi une manière peut-être de pousser un éditeur à le rééditer. Car aujourd'hui, malheureusement, pour vous, auditeurs et auditrices, eh bien, il faut le chercher.
Alors bon, donc on va faire le lien avec Elmore Léonard, Hervé, assez rapidement malheureusement, parce que bon, on a perdu un peu de temps avec nos soucis techniques en début d'émission.
Oui, j'en suis désolé.
C'est pas du tout toi qui en cause, c'est notre cher technicien Bernard, mais bon, ça je réglerai ça avec lui après l'émission.
Ne frappe pas trop fort.
Non. Et donc oui, alors ben, la disparition du maître du western et du polar, on peut le dire, hein. Elmore Léonard, qui a d'ailleurs, c'est quand même à signaler, fait une page dans Le Monde, hein, pour sa disparition.
Oui,
donc, là, ce qui montre quand même que
ce n'est pas le cas. Oui, mais effectivement, le décès d'Elmore Léonard a été beaucoup évoqué, a été salué. Il y a eu de beaux articles.
Oui, tout à fait.
Pour paraphraser d'ailleurs un titre de film. C'est un peu la mort de... C'est peut-être le dernier des géants, en fait, qui s'en allait, parce qu'après Donald Westlake, il y a peu de temps, y avait Elmore Léonard, qui aussi était un... Bah là, je crois qu'il est mort, il avait 87 ans, et
ouais, c'est ça,
il était encore à écrire son 46e roman la mort l'a saisi. C'est-à-dire, c'est un peu... C'est frénétique de l'écriture, mais pour leur plaisir. C'est-à-dire,
Puis bon, avec une carrière aussi particulière, elle a commencé par le western sans être vraiment reconnue. Oui. Il a fallu qu'il attende quelques années, les années 80, sachant qu'il est né en 1925, hein, pour être reconnu.
Oui, tout à fait, parce qu'en fait, quand on cite... ma première rencontre avec Elmore Léonard, elle s'est faite, elle s'est faite au cinéma. Moi, j'étais gamin, ma mère m'emmenait pas mal au cinéma, tout genre confondu, et on avait vu Ombre et de Martin Ritt, je crois, ça devait être en 69 ou un truc comme ça, et avec Paul Newman absolument extraordinaire, et c'est après trouvé, ça devait être, parce que comme il y avait la photo du film, j'ai acheté le masque western, puisqu'ils avaient une collection western à l'époque, et où il y avait Ombre, et voilà, qui a été retraduit et qui est maintenant chez Rivage.
On revient à Rivage.
Puis, ouais. Mais effectivement, il a fait des tas de... Il a beaucoup écrit des nouvelles, Elmore Léonard. Par exemple, il y en a une, c'est 3h10 pour Yuma, qui a donné...
un film récemment.
Il y a eu deux films, je crois. Et puis, évidemment, on pense toujours au cinéma, parce que beaucoup plus proche de nous quand même, il y a eu Hors d'atteinte de Soderbergh avec George Clooney et Jennifer Lopez. Il y a eu des adaptations moins bonnes, mais enfin celle-là...
Ouais, puis c'est celle qui fait quand même... qui incite au respect de l'écrivain, c'est celle de Tarantino.
Il y a effectivement...
Jackie le... Cameron.
Voilà, le fameux Jackie Brown de Tarantino avec Pam Grier, qui est un film extraordinaire et qui en plus est tout à fait... Enfin, Tarantino a fait ce qu'il a pris son point de vue d'auteur, de réalisateur, mais qui est un film qui, à mon avis, est tout à fait en écho à l'esprit de d'Elmore Leonard, c'est-à-dire avec beaucoup, avec dans ses romans, que ce soit les romans noirs ou que ce soit les westerns, toujours de l'humour, une fausse désinvolture dans le style, c'est-à-dire qui est très maîtrisée, mais qui est en même temps très... très authentique, très direct, beaucoup un sens du scénario et du rythme absolument
dialogue,
comme on disait dans les vieilles séries noires. Enfin, c'est...
quand on parle de western, hein, bon, il y a beaucoup de personnes qui peuvent se dire, bon, western, ça se regarde hein, au cinéma ou à la télé, mais d'abord, ça se lit, et quand on lit Elmore Leonard, on y est, quoi. Hein. Alors, bien sûr, il faut peut-être avoir quelques images dans la tête, mais on y est vraiment, il y a l'ambiance. Alors, pour conclure...
Il s'était passionné pour l'Arizona, pour la nation Apache et ses diverses tribus, et voilà, et d'ailleurs, dès Ombre, dont je parlais tout à l'heure, il y a aussi chez lui, toujours un certain humour, mais il y a toujours aussi un grand humanisme aussi qui le caractérise, puisque le personnage que joue Paul Newman est un gars qui a été élevé par les Apaches, et qui se retrouve dans une diligence, et où évidemment il est dès le départ la cible d'une certaine hostilité, on peut dire d'un certain racisme, et en fait il va se révéler totalement indispensable quand la diligence va avoir des petits problèmes.
Alors, pour conclure, hein, parce qu'il faut qu'on avance, Hervé, et la prochaine fois, eh bien, Bernard va nous rendre les minutes hein, qu'il nous a fait perdre, et donc la prochaine fois, on prévoit déjà, hein, tout de suite, c'est noté en direct, on prévoit 3/4 de variation en noir. Non, je voulais simplement dire que Jackie Brown hein, de Tarantino, c'est adapté d'un roman qui s'appelle Punch Créole, qu'on trouve aussi en Rivage Noir. Alors, on souffle deux secondes.
On peut lire aussi Steve, Zigzag Movie, Valdez arrive, etc. C'est de toute façon toujours de la limpidité du style, et puis c'est toujours un vrai plaisir.
Alors, on souffle deux petites secondes avant que tu nous donnes tes coups de cœur du mois, parce que maintenant, dans la revue 813, depuis quelques numéros, il y a une bonne initiative là, qui a été prise, c'est de citer la playlist d'un écrivain, hein, c'est-à-dire quels sont les morceaux qu'il aime écouter quand il écrit. Donc, dans le dernier numéro, bien, cette playlist, c'est la playlist de Karim Madani, qui écrit en série noire, et donc on souffle un petit peu en écoutant un classique. Voilà, Hervé, c'était très rapide.
C'était très plaisant d'écouter, d'entendre Miles Davis, et puis...
une histoire de...
L'ascenseur pour l'échafaud.
Une histoire de cinéma.
Comme le dit Karim Madani, le claquement des talons de Jeanne Moreau sur le bitume parisien et le blues homicide d'un géant du jazz forment une espèce d'alchimie bigger than life.
Voilà, alors on va s'adapter, hein, c'est le direct, on va simplement évoquer aujourd'hui tes deux coups de cœur du mois, et François Guérif, eh bien, on en reparle le mois prochain. De toute manière, ça reste d'actualité, son bouquin du polar, hein, ses entretiens avec le journaliste Philippe Blanchet, c'est un bouquin qu'on peut lire tout le temps, il n'est pas du tout en lien avec l'actualité, donc on y reviendra. Donc Hervé, deux coups de cœur, les deux louches du mois.
Les deux louches du mois, oui. Les deux louches noires. Il y en a deux qui ont pour seul point commun qu'on y parle de forêt. Mais sinon, voilà, c'est très différent. Le premier, il se passe, c'est une aventure du Poulpe, ce personnage créé par Jean-Bernard Pouy. Il y a maintenant, ça a été créé en 95, donc ouais. On n'est pas loin des 20 ans.
L'année de naissance. Je connais l'année de naissance du Poulpe.
Bon.
C'est la même que la mienne, hein. C'est 1960 le Poulpe, il a eu 40 ans l'an 2000. Et autre particularité...
Tu as tout à fait raison.
Et autre particularité...
Voilà, je parlais de la naissance de la collection.
Oui, mais bon, tu m'y fais penser.
Et autre
particularité, les initiales du Poulpe... Hervé, tu m'entends ?
Oui, et toi ?
Autre particularité, avant que je te redonne la parole, du Poulpe, c'est Gabriel Le Couvreur.
C'est Gabriel Le Couvreur.
GL.
Oui.
Voilà. Oh ah, voilà. Autre
voilà,
rencontre.
Mais alors, voilà. attends, tu es...
Alors, revenons à la bonne à tout faire.
On reviendra... Alors, c'est la bonne à tout fait, même.
À tout fait, oui.
Elle a vraiment tout fait. Voilà, c'est un auteur, Franz Bartel, qui est un auteur qui vit... Dans les Ardennes côté français, qui est surtout connu pour des romans et des nouvelles parues en entre guillemets littérature blanche, même si Bartelt est inclassable, comme Les Bottes Rouges, Le Bar des Habitudes, mais qui a commencé des incursions, notamment à la série noire avec Le Jardin du Bossu, qu'on trouve en folio maintenant. Et puis là, eh bien, Franz Bartelt s'est emparé du personnage du Poulpe. Et le Poulpe, qui est toujours au début à son bar de la Sainte Scolasse, comme on sait, ça fait un moment qu'il reçoit des courriers d'un vieil ermite anard, du fin fond des Ardennes, qui veut vraiment le faire venir parce que ce vieil anard qui s'appelle Versus Bellum veut absolument avoir la peau d'un gros entrepreneur forestier local qui pour lui représente tous les nantis et les exploiteurs. Bon, Gabriel se fait un peu tirer l'oreille et puis Gabriel tombe sur les faits divers de disparition de femmes dans le même coin. Et donc il va aller là-bas.
Ne nous raconte pas tout, Hervé.
Non, je raconte pas tout. Mais il va quand même découvrir la forêt ardennaise, les virages incessants et tortueux, et la trappiste de l'abbaye d'Orval que les amateurs de bière aiment. Et c'est servi surtout par le style de Franz Bartel, c'est-à-dire beaucoup de fantaisie satirique. Il s'empare, il fait un poulpe réellement libertaire, mais...
Un vrai poulpe.
Voilà, l'esprit même du texte, et c'est un régal.
Bon, Hervé, donc, je suis désolé parce que là, on arrive au terme de émission. Donc, ton autre coup de cœur, Le Dernier Arbre de Tim Gattreau au Seuil, écoute, on se le garde aussi au chaud.
Pour la prochaine fois.
Hein,
voilà, dernier arbre, il va rester.
Voilà. Hein, et on prend notre temps. En tout cas, merci, un grand merci à toi de ta patience.
Désolé d'avoir été un peu bavard.
Pas du tout. Hein, et merci d'avoir patienté malgré nos petits problèmes techniques, mais c'est une première et donc, Bernard, on l'excuse. Et puis donc, on se retrouve pour de prochaines variations en noir, le dernier vendredi du mois d'octobre. Au revoir, Hervé.
Merci Guy et à bientôt. Merci à PFM.
Voilà.
Bonne soirée.
Au revoir.
Et il est temps de lâcher l'antenne, puisque dans quelques instants, vous allez retrouver un programme musical finement concocté. Et puis, on retrouve Guy la semaine prochaine pour une chronique. Et dans un mois, pour un Variation en Noir.